Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Le monde s'apprête à célébrer Halloween et la fête de la Toussaint. Dans 5 jours, dans de nombreux pays dits chrétiens, non seulement des rituels bizarres se dérouleront à la tombée de la nuit dans bon nombre de nos villes, mais on s'apprêtera aussi à célébrer ce que le christianisme traditionnel appelle la Toussaint. Autrement dit, la fête de tous les saints. Or, cette fête est-elle celle des saints de Dieu? Que déclare la Bible à propos de cette double célébration, pourrait-on dire, Halloween et la Toussaint? Dieu approuve-t-il non seulement l'étalage de toutes ces scènes macabres, avec ses fantômes, ses vampires, ses loups-garous, ses sorcières et ses zombies, mais aussi la célébration liturgique débutant par les vêpres le soir du 31 octobre et se terminant à la fin du 1er novembre? La Toussaint est une fête du christianisme traditionnel, au cours de laquelle on honore supposément tous les saints. S-A-I-N-T-S. Dans le christianisme traditionnel, des fêtes honorant tous les martyrs existaient dès le IVe siècle. À Rome, au Ve siècle, une fête en l'honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte catholique. Après la transformation du Panthéon de Rome en sanctuaire, le pape Boniface IV le consacra le 13 mai 610 sous le nom de l'Église Sainte-Marie et des Martyrs. Boniface IV voulait ainsi faire mémoire de tous les martyrs chrétiens dont les corps étaient honorés dans ce sanctuaire. La fête de la Toussaint fut alors fêtée le 13 mai, date anniversaire de la dédicace de cette église consacrée aux martyrs et remplaçant la fête des Lémuria de la Rome antique, célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants. La célébration de la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre est une spécificité catholique, apparue en Occident au 8e siècle. Il semble que ce soit à partir de cette période qu'elle ait commencé à être fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III dédicace à tous les saints une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Vers 835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans toute la chrétienté. Pour certains historiens, c'est à l'occasion de cette décision que la fête de la Toussaint est fixée au 1er novembre. Sur le conseil de Grégoire IV, l'empereur Louis le Pieux institue la fête de tous les saints sur le territoire de l'Empire carolingien. Conjointement, Halloween est une fête qui se célèbre à la même date, le 31 octobre, veille de la Toussaint. Or, ces fêtes sont intimement liées. Halloween, au départ, une fête celtique d'origine irlandaise, célébrée au début de l'automne par les Celtes, elle marque le nouvel an celtique. Il y a environ 2000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit de Samhain, dieu de la mort. Elle est connue jusqu'à nos jours sous le nom de Oike Samhna, littéralement la nuit de la fin de l'été en gaélique. C'est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Mais cette célébration est de plus en plus observée de nos jours dans plusieurs pays francophones. D'après la nouvelle encyclopédie catholique en anglais, je cite, « Les Irlandais réservaient le premier jour du mois de novembre aux grandes fêtes, et puisque le 1er novembre marquait de surcroît le début de l'hiver celte, c'était une date appropriée pour célébrer tous les saints. » En 835, le pape Grégoire IV décida d'universaliser cette fête. On voit donc d'ores et déjà le lien entre Halloween et la Toussaint. Pendant la proto-histoire celtique, la fête de Samhain en Irlande, Samonios en Gaule, se déroulait sous l'autorité des druides pendant 7 jours. Le jour de Samhain lui-même, et 3 jours avant et 3 jours après. C'est une fête marquant l'achèvement de l'année écoulée et le début de l'année à venir. Le temps de Samhain est celui du Cid, de l'autre monde, brièvement confondu avec celui de l'humanité. La nuit de Samhain, dit-on, n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. C'est supposément une période close, en dehors du temps. C'est la période où les limites séparant le monde physique du monde des esprits sont éliminées et où, selon d'anciennes croyances, l'irréel côtoie le réel. Les hommes peuvent alors temporairement, supposément, communiquer avec l'au-delà, en l'occurrence les démons ou les dieux. Les Celtes croyaient que les morts pouvaient marcher parmi les vivants à ce moment-là. Durant Samhain, on disait que les vivants pouvaient même passer voir les morts. Lors de cette nuit marquant la fin de l'été, les Gaulois avaient l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la nouvelle année à venir se déroulerait sereinement. Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée dans leur foyer, puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'autel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Après la cérémonie, chaque foyer recevait des braises encore chaudes pour rallumer le feu dans leur maison, pour ainsi protéger la famille des dangers de l'année à venir. En octobre, les nuits se rallongent. Et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Et pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels, dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Les fantômes, les vampires, les loups-garous, les sorcières et les zombies sont depuis longtemps associés au monde des démons. Certains Celtes portaient des costumes macabres dans l'espoir que les esprits errants penseraient qu'ils étaient des leurs et se les laisseraient tranquilles. D'autres offraient des friandises aux esprits pour les apaiser. Dans l'Europe médiévale, le clergé catholique, qui avait adopté les coutumes païennes locales, demandait aux fidèles de se déguiser et d'aller de maison en maison demander de petits cadeaux. Au Moyen-Âge, en Grande-Bretagne, les quémandeurs se déplaçaient de maison en maison demandant de la nourriture en échange d'une prière pour les morts. Ils portaient des lanternes creusées dans des navets, avec à l'intérieur une bougie, symbolisant une âme enfermée dans le purgatoire. On dit aussi que les lanternes étaient utilisées pour éloigner les mauvais esprits. À présent, l'événement principal de la fête de Halloween et la chasse aux bonbons, appelé aussi passage d'Halloween, durant lequel les enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones crient « trick or treat », ce qui signifie « farce » ou « friandise ». En France et en Belgique, l'habitude est de dire une phrase semblable à celle des anglophones, « des bonbons » ou « un sort », un mauvais sort sous-entendu. Tandis qu'au Québec, les enfants crient « bonbons, s'il vous plaît ». Halloween a d'abord été connu sous le nom de soirée des tours. Des tours, comme les tours, non pas les tours qui s'élèvent, mais les tours qu'on vous joue. On vous joue des tours, n'est-ce pas? Dans les premières régions des États-Unis où il s'est diffusé. C'est là qu'on l'appelait la soirée des tours. Et les costumes des enfants, souvent effrayants, servent à donner l'illusion que les esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles le porte-à-porte est pratiqué. La tradition du porte-à-porte pour demander de la nourriture existait déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des prières contre les soul cakes, les gâteaux de l'âme, pourrait-on dire en français. La soirée peut être également marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d'Halloween, la diffusion de films d'horreur, mais aussi la tenue de messes anticipées de la Toussaint dans sa composante religieuse. La fête d'Halloween a été introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande de 1845 à 1851. Il a gagné en popularité à partir des années 1920 et c'est dans le Nouveau Monde que sont apparues les lanternes Jack-o'-lanterns, Jack-o'-lanterns, confectionnées à partir de citrouilles d'origine locale. À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet. Issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux États-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille, qui pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween. Les fêtes druidiques ont disparu d'Irlande au 5e siècle. Avec l'arrivée du christianisme. À ce moment-là, à partir du IXe siècle, les catholiques décidèrent de fêter la Toussaint, sous-entendu tous les saints, le 1er novembre. Et au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV, de 827, qui régna de 827 à 844, ou qui était en poste à cette époque-là, c'est au siècle suivant donc que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques, les Pâques païennes, ou après la Pentecôte catholique, pas la Pentecôte chrétienne de la Bible, à la date du 1er novembre, christianisant, on pourrait mettre ça entre guillemets, ainsi la fête de Samhain. Ces deux fêtes n'ont rien de chrétien. J'insiste sur le fait, elles n'ont rien de chrétien. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre. La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs instituée à. C'est une commémoration qui est instituée à Rome en 613, comme je le disais, par le pape Boniface. À l'origine, elle était fêtée le 13 mai, jour de l'anniversaire de la dédicace du Panthéon. Elle remplaçait la fête des Lémuria de la Rome antique, célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants. Vous savez, on lit tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de biblique dans tout cela? Et j'espère que vous me suivez. Au 9e siècle, la fête fut étendue à tous les saints. Ah, tous les saints. Par le pape Grégoire IV et décalé au 1er novembre. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser la fête de Samhain. La célébration de Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le 9e siècle. En 998, les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, qui entra comme dans la liturgie romaine, comme commémoration des fidèles défunts au XIIIe siècle. Intéressant tout cela, n'est-ce pas? Fascinant, n'est-ce pas? Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre. Une croyance bretonne aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle. selon laquelle les âmes des morts revenaient à la veille de la Toussaint et lors des nuits de solstice. Avant d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se chauffer. Hein? Les démons ont besoin de se chauffer. Hors de l'Empire carolingien, le changement de date ne fut pas systématique. L'Irlande continua à fêter les martyrs au 20 avril et non au 1er novembre. L'abondante littérature irlandaise médiévale, élaborée par les clercs entre les 8e et 12e siècles, ne mentionne que la fête sacrée de sa main. À la suite de la grande famine de 1845 en Irlande, plus de 2 millions d'Irlandais s'installèrent aux États-Unis et apportèrent avec eux leurs pratiques et leurs coutumes. Jack O'Lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui serait apparu et lui aurait réclamé son âme. Jack aurait demandé au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable aurait accepté et aurait pris la forme d'une pièce de 6 pence. Jack l'aurait immédiatement placé dans sa bourse, laquelle, avec une serrure en forme de croix, aurait empêché le diable de s'en échapper. Finalement, Jack aurait accepté de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack aurait fait une autre farce au diable, laissant en haut d'un arbre sur lequel il aurait gravé une croix à nouveau, une croix grâce à son couteau, l'obligeant à lui promettre qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jack serait mort, l'entrée au paradis lui aurait été refusée et le diable lui aurait également refusé de le laisser entrer en enfer. Jack aurait néanmoins réussi à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans l'obscurité. Il aurait placé le dit charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et serait condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en français, ou Jack O'Lantern. On dit qu'il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que nous avons besoin de savoir l'ineptie de ces croyances. Au début du XXe siècle, les enfants du Finistère, en Bretagne, auraient encore eu pour coutume de sculpter des têtes dans des betteraves et des navets à l'approche de la Toussaint, ainsi que de jouer des tours aux autres villageois. En France, il y avait, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, un gâteau commercialisé pendant la fête d'Halloween, le samin. Le samin. Le gâteau s'appelait le samin. Il était confectionné à base de pâte feuilletée, de pommes, de noisettes grillées, de raisins secs et de caramel. Son aspect lui donnait l'impression d'être illuminé de l'intérieur avec des têtes de citrouille. En Écosse, le folklore est centré sur la croyance en l'existence de fées. Les enfants à Halloween se costument et transportent une nippy candle. Un visage diabolique, gravé dans un rutabaga, évidé, éclairé de l'intérieur pour effrayer les mauvaises fées. Un jeu d'enfant populaire durant cette soirée est celui où une pomme doit être attrapée dans un bac d'eau en utilisant seulement sa bouche. Vous avez peut-être joué ce jeu, je pense que je l'ai même joué, je ne savais pas d'où ça venait, mais maintenant je le sais. Un autre jeu consiste à essayer de manger en ayant les yeux bandés, un pain enrobé de mélasse pendant au plafond par une ficelle. Jadis, en Angleterre, la fête d'Halloween était appelée la nuit du casse-noisette ou la nuit de la pomme croquante. Les familles réunies autour du feu racontaient des histoires tout en mangeant des noisettes et des pommes. Ce jour-là, les pauvres recevaient des gâteaux appelés les gâteaux de l'esprit. En France, il existait en Bretagne, dans le Finistère, du XVe siècle au milieu du XXe siècle, les enfants avaient coutume, vers la Toussaint, de creuser des betteraves, d'y pratiquer des trous en forme d'yeux, de nez et de bouche, d'y introduire un bout de bougie et de refermer le tout. Outre ce lampion à tête humaine posé la nuit sur un talus ou dissimulé dans les broussailles d'un terrain creux pour effrayer les gens, le même témoignage évoque des enfants avec cette fois la tête betterave portée sur leur tête et montée sur des échasses en une terrifiante procession supposée représenter l'Ankou. L'Ankou étant une personnalité de la mort dans ou une personnification, devrais-je dire, de la mort dans les mythologies bretonnes, de Cornouailles, du Pays de Galles, dans les mythologies françaises et normandes, et les êtres de l'autre monde. Dans le Finistère ainsi que dans le Vannetais, la tradition de la veillée d'Halloween, bien que ne portant évidemment pas ce nom anglais, peut encore être racontée par les personnes âgées. En Vannetais, elle s'appelle Gwell Callan Wavnen, la fête des calandes de l'hiver. Excusez ma prononciation, mais je ne suis pas un Vannetais et je ne sais pas exactement comment prononcer ces choses, mais je fais de mon mieux. Linguistiquement et culturellement, les langues gaéliques ont gardé le mot Samhain, construit sur la racine Sam, qui signifie été, équivalent du britannique Haf, été. Hanv, en breton moderne. Cette fête est, dans les langues gaéliques, la fin de l'été et le début de l'hiver, quand commencent les mois noirs, comme ils les appellent. Samhain s'accompagnait de rituels symboliques, comme celui de chasser les esprits en balayant la poussière accumulée le reste de l'année sur le seuil de la porte avec un balai de genêt, ou de laisser une assiette supplémentaire à table pour les morts qui visiteraient leur famille. Dans le Finistère, bien que très vivante, il n'y aurait qu'à Plougastel d'Oualas que la cérémonie de l'arbre à pommes, Gwenzen an Anahon, aurait survécu. Cette tradition pré-chrétienne a, au fil du temps, été intégrée par les cadres catholiques de la paroisse à la date du 1er novembre, au profit de la fête de la Toussaint, donnant ainsi l'occasion de dons sous forme d'aumônes. Elle est décrite comme un rassemblement d'une ou plusieurs familles organisées en brûlier, sous un même toit pour partager un repas et faire la fête en chantant des gwerds et en se racontant des histoires de l'Ankou ou de Dola. Après ou près du feu. Une brûlier était une frairie. Et dans les années 1970, après Vatican II, le clergé aurait voulu faire cesser cette cérémonie et les brûliers ou frairies étaient connus dans toute la Bretagne, au moins bretonnante. On peut se demander s'il ne s'agit pas effectivement à Plougastel de la seule survivance d'une célébration jusqu'alors beaucoup plus répandue. Nous avons besoin de savoir d'où viennent ces choses, frères et sœurs. Ça vaut le coup d'étudier un petit peu la question avant de savoir ce que la Bible en pense. Et j'y viens. Mais continuons notre petit pourtour, notre petit voyage. En Moselle, la Morelbout-Znat, Nuit des betteraves grimaçantes, en francique lorrain, est une tradition célébrée la veille de la Toussaint, essentiellement dans le pays de Niers et dans une partie du land de Sarre voisin. La veille de la Toussaint, les enfants sculptent des têtes grimaçantes dans des betteraves, légumes dont la récolte marque la fin des travaux des champs. Éclairés par la lumière d'une bougie, les têtes sont déposées sur les rebords de fenêtres, des puits, les murs des cimetières ou au croisement des chemins pour effrayer les passants. Cette fête a continué à être célébrée bien avant le retour en Europe de la mode d'Halloween à la fin des années 1990. En Belgique, il existait en milieu rural des traditions similaires à celles du jack-o'-lantern. En Flandre, à l'occasion de la Saint-Martin, les enfants creusent en effet des betteraves et y percent des trous pour figurer un visage grimaçant éclairé par une bougie placée à l'intérieur de la betterave. En Wallonie, ces lanternes étaient appelées Grigendents. Ces lanternes étaient réalisées au moment de la récolte qui coïncide avec le début de l'automne et avec les fêtes de la Toussaint. Cette pratique tend à disparaître depuis les années 1980. Halloween n'a commencé à être fêté que depuis le début des années 1990. Supposément, elle est ressuscitée au début des années 1990, devrais-je dire. En Suisse, la ville de Richtwil accueille l'ancienne fête du Rablikslik. Difficile à prononcer quelquefois ces mots. Rablikslik. Le deuxième samedi de novembre où l'on défile dans la ville avec des raves creusées et éclairées par une bougie à l'intérieur. Cette fête fait partie des traditions vivantes de Suisse. Vous voyez, dans beaucoup de pays, ces traditions demeurent. C'est à la fin du 19e siècle qu'Halloween devint aux États-Unis une source de festivité avec les déguisements et les décorations tournant autour des têtes de mort, fantômes, squelettes, sorcières, etc. Les enfants déguisés en sorcières ou en fantômes défilent dans les rues en frappant aux portes et en revendiquant des petits cadeaux, des bonbons, des friandises, sous menace de malédiction en cas de refus. La coutume du trick or treat est apparue aux États-Unis dans les années 1930. Aujourd'hui, Halloween est fêté par un Américain sur deux. Un sur deux décore sa maison. 72,3% distribue des bonbons et 40,6% se déguise. Il dépense en moyenne $62 par personne, ce qui représente un total de $8 milliards. Donc c'est substantiel. Au Canada, la fête d'Halloween est largement célébrée. Le 31 octobre, le soir venu, les enfants revêtent des costumes de toutes sortes, amusants ou effrayants, et envahissent les rues pour frapper à chaque porte et demander des friandises. Les foyers qui participent à la fête ornent le pas de leurs portes d'une citrouille illuminée ou branchent simplement les décorations pour indiquer que les enfants y sont les bienvenus. Depuis quelques années, cette fête a pris de l'ampleur et donne lieu à de multiples activités pour petits et grands. La fête suscite aussi un engouement croissant pour la création de véritables décors d'horreur devant certaines maisons. Les commerces comme les restaurants et les discothèques se prêtent également au jeu. Il fallut néanmoins attendre les années 1960-1970 pour qu'elle s'impose réellement dans les régions à grande majorité francophone comme le Bas-Saint-Laurent. Par ces manifestations, la fête d'Halloween s'apparente à celle du Mardi Gras ou de la mi-carême, qui donnait lieu dans certaines régions du pays à des déguisements et à la collecte de bonbons, notamment au Goulet, Nouveau-Brunswick, et à Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues, au Québec. Halloween est célébré dans les Caraïbes. Vous voyez, c'est partout. Dans certaines régions des Antilles britanniques, il y a des célébrations en l'honneur de la nuit de Guy Fawkes, qui ont lieu aux environs d'Halloween, sur l'île de Bonaire. Sur l'île de Bonaire, les enfants d'une ville se rassemblent en groupe et, contrairement aux autres endroits du monde, ils fêtent Halloween dans les confiseries au lieu de faire du porte-à-porte. C'est plus pratique, n'est-ce pas? Au lieu de demander des friandises, on va carrément dans une boutique. À l'île Maurice, cette quête de friandises est parfois effectuée par les enfants, bien que cela ne soit pas entièrement inscrit dans les mœurs du pays. Au Maroc, la fête d'Halloween est un peu célébrée, mais sa popularité augmente rapidement au point de voir des citrouilles dans certains quartiers, des enfants déguisés et des adultes qui organisent des soirées. Que tirer de tout cela, frères et sœurs? Je sais que ça a été un peu long, mais ça vaut le coup. Vous savez, quelquefois, nous avons besoin d'étudier ces choses et de savoir ce qui se passe, d'être informés. Nous avons vu que la fête de la Toussaint est étroitement liée à l'Halloween. Or, non seulement ces fêtes ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais leur association à un faux au-delà et au démonisme révèle que notre Père Céleste est loin d'approuver de telles pratiques. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas célébrer ces fêtes? Premièrement, frères et sœurs, Halloween a fort à faire avec les démons, et non les anges. Or, comme l'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10-20, reportons-nous à 1 Corinthiens 10-20 maintenant, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 20. Paul a dit, « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas célébrer ses fêtes? Deuxièmement, il n'y a pas de saint au ciel. Désolé pour tous ces gens sincères qui prient les saints. Mais il est clair d'après la Bible qui est la parole inspirée de Dieu. Personne n'est monté au ciel. Il n'y a pas de saint au ciel. Et on ne devrait pas rendre de culte à ces derniers non plus. Rappelez-vous Luc 4, 8. Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Incidemment. Mais reportons-nous à Jean chapitre 3 et le verset 13. Jean chapitre 3 et le verset 13. Jean 3, 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ce verset est, on ne peut plus, clair. Il est clair, personne n'est monté au ciel. Acte 2, 29, acte 2 et le verset 29. Acte chapitre 2 et le verset 29. Et il y a plusieurs passages, vous les connaissez probablement, mais il est bon de revoir ces choses, de nous accrocher, de nous arrimer sur la Bible, sur la parole du Dieu vivant. Acte chapitre 2, verset 29. « Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous, parmi nous. » Sautons au verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et non pas des vivants, incidemment, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Mais verset 34, et c'est à nouveau répété ici ce que je disais, hein, ce qui est écrit dans Jean 3, 13, verset 34 maintenant de acte 2, « Car David n'est point monté au ciel. » David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et incidemment, cela ne s'est pas encore produit. Dieu n'a pas encore mis tous ses ennemis sous son marchepied. Reportons-nous à Ecclésiaste chapitre 9 maintenant. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 5. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. À nouveau, c'est clair, c'est net. Les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Ils ne pensent plus, ils ne réfléchissent plus. Il n'y a plus de conscience. Leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Verset 10 maintenant. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Que nous dit ce verset? Que rien ne se passe, qu'il n'y a aucune conscience dans le séjour des morts. Quand on est mort, on est endormi, on a conscience de rien. On est endormi parce que je dis ça, parce que la Bible montre dans d'autres passages que c'est cela la mort. Un sommeil très profond où il n'y a plus aucune conscience de rien. Et les années, les siècles peuvent se dérouler, nous n'en avons pas conscience. C'est un peu comme lorsque nous sommes sous anesthésie. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été anesthésiés, mais il m'est arrivé d'être anesthésié pour... il fallait m'arracher une molaire et il a fallu m'anesthésier. Et vous savez, c'est presque amusant parce que finalement... Je discutais avec le docteur et avec les chirurgiens et puis ils étaient là autour de moi et puis d'un seul coup, en l'espace d'une fraction de seconde, plus rien. Et alors je me réveille, je pense que c'était 2 heures plus tard, et je les regarde, il n'y avait plus que le docteur qui était là, je dis « Mais alors, quand est-ce que vous allez faire cette opération ?» Il dit « Mais c'est déjà fait. » Je n'avais eu conscience de rien, pas de cauchemar, pas de rêve, rien du tout. Bon, la mort, c'est comme cela. Vous n'avez conscience de rien. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Vous savez, ce sont des passages comme ça qui sont pourtant très clairs. On se demande, on se gratte la tête, on se dit, mais pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas ce qui est écrit là? Nous savons également que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, n'est-ce pas? Ézéchiel 18, 20, vous connaissez le passage. Nous savons aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, un autre passage clé. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la vie dans un au-delà. Romains 6, 23. Nous n'avons pas une âme immortelle. Le mot « nefesh » et puis ses équivalents dans le Nouveau Testament veulent dire simplement une créature à respiration ou une créature vivante. Ça a été traduit par « âme » en français, mais ça ne veut, il n'y a aucune notion d'immortalité dans ce mot. Bon, troisièmement, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas observer ces fêtes de Halloween et puis de la Toussaint? Troisièmement, je dirais, un saint n'est pas ce qu'on prétend. Un saint n'est pas ce qu'on prétend. Le terme saint vient du grec agios. Agios, bon, on le prononce peut-être différemment, je ne suis pas grec. Mais, pardonnez-moi messieurs les grecs, mais agios, ça ira pour aujourd'hui pour nous, H-A-G-I-O-S. Alors, le terme saint vient du grec agios qui signifie consacré à Dieu. Saint, sacré. Il est presque toujours utilisé au pluriel. Saint au pluriel. Ok, reportons-nous à Actes chapitre 9 et le verset 13. Actes chapitre 9 et le verset 13. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment Dieu définit un saint. Comment la Bible définit un saint. Non pas comment le monde le définit. Peu importe ce que le monde dit. Ce qui nous intéresse à nous autres chrétiens, c'est de savoir ce que Dieu entend par un saint. S-I-N-T. Actes chapitre 9, verset 13 à 14. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme, hein, il est question de celui qui s'appelait Saul à l'époque et qui allait devenir l'apôtre Paul. Alors, je sais ce que tous les mots que cet homme a fait étaient saints à Jérusalem. Il n'était pas question de gens qui étaient béatifié ou canonisé, comme on l'appelle aujourd'hui. Non, simplement les membres de l'Église. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Bon, voilà déjà un verset, un passage dans la Bible qui nous montre comment Dieu utilise ce mot saint, agios. Reportons-nous à Actes chapitre 9 et le verset 32. Nous sommes dans les Actes, quelques versets plus loin. Actes 9, 32, cette fois-ci. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il visitait qui? Dans le contexte, il est clair qu'il visitait simplement les chrétiens. C'est aussi simple que cela. Acte 26 maintenant, quelques pages plus loin, toujours dans le livre des Actes. Acte 26 et le verset 10. Acte 26 et le verset 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. C'est Paul qui parle ici, expliquant ce qu'il faisait avant sa conversion. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Il parle des saints comme des membres de l'Église, simplement, les chrétiens. Philippiens, chapitre 4, verset 21. Philippiens 4, 21. Philippiens 4, 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Il est question des saints pour décrire tout simplement les vrais chrétiens. À 67 reprises dans le Nouveau Testament. Le terme saint désigne un groupe de personnes mises à part pour Christ, pour son royaume. Il y a trois passages qui parlent de la piété des saints. De la piété des saints. Romains chapitre 16 et le verset 1. Je recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. D'une manière digne des saints. Éphésiens 4 et le verset 11, Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Intéressant parce que il est question de perfectionnement des saints. Donc, ces saints ne sont pas encore parfaits. Ils se perfectionnent. Ils n'ont pas encore atteint cette perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être saint. Vous êtes quelqu'un, vous avez besoin d'être quelqu'un qui est simplement chrétien. Si vous êtes chrétien, un vrai chrétien, qui est sincère, en qui Christ agit, vous êtes un saint. C'est aussi simple que cela. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 5, 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Je cite simplement ici quelques passages qui montrent comment Dieu, dans sa parole, utilise le mot saint. À qui il se réfère. Éphésiens chapitre 5 et le verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dans la Bible, les saints sont le corps de Christ, les chrétiens, l'Église. Tous les chrétiens sont considérés comme saints, mais aussi appelés à être saints. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, notez le mot sanctifié ici, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Les termes sanctifiés et saints sont tirés de la même racine grecque que le terme couramment traduit par saint. Les chrétiens sont saints en vertu de leur lien avec Christ, avec leur Père céleste. Ils sont appelés à être saints, à ressembler de plus en plus à Christ. Telles sont la description et l'appel biblique des saints. Quel rapport cela a-t-il avec la définition que nous donne le christianisme traditionnel des saints? Aucun. Pour ce dernier, les saints sont au ciel, alors que dans la Bible, ils sont sur terre. Dans l'enseignement catholique, une personne ne devient sainte qu'étant béatifiée ou canonisée par le pape. Dans la Bible, toute personne ayant revêtu Christ et étant en Christ est sainte. Dans la pratique catholique romaine, les saints se voient adresser des prières, font l'objet d'une vénération, parfois même d'adoration. Dans la Bible, les saints sont appelés à vénérer, à adorer et à prier Dieu seul. Dans l'Église catholique, seul le pape a le pouvoir de canoniser une personne dont la vie et les actes lui ouvrent les portes de la sainteté, soi-disant. Un sacre qui se fait en deux étapes, la personne devant auparavant être béatifiée. Donc avant d'être canonisée, il faut être béatifié. La décision pontificale n'intervient qu'au bout d'un long processus, un processus complexe, qui débute dans le diocèse où le candidat est décédé. Un groupe de fidèles, appelé Acto Causae, s'adresse à un prêtre, un postulateur, comme on l'appelle, pour qu'il dépose une demande auprès de l'évêque de ce diocèse. Ce dernier, après avoir analysé les pièces du dossier, écrit, preuve de miracle, va formuler environ 2 ans après une requête officielle auprès de la Congrégation des causes des saints, qui se tient au Vatican. Si la congrégation juge que le candidat mérite d'être canonisé, elle donne son accord, la nulla ostra, et commence l'évaluation des preuves, c'est le contrôle de la légitimité, une étape qui peut durer 12 années. Pas de miracle, pas de saint, incidemment. Précision importante, il n'y a ni béatification, ni canonisation sans miracle. C'est pourquoi un groupe de médecins et de théologiens se penche sur des actes prétendument miraculeux pour les évaluer. Si un miracle est avéré que la vie du candidat est jugée vertueuse, par exemple, le pape autorise un décret de béatification et la date de la cérémonie est fixée. Pour Jean-Paul II, elle a eu lieu le 1er mai 2011, alors que Jean XXIII avait été béatifié par le pape polonais le 3 septembre 2000. Ensuite, si un second miracle est avéré, une cause en sanctification est ouverte, qui mène à la canonisation. Au total, l'ensemble de la procédure peut prendre des années, voire des siècles, comme ce fut le cas pour Jeanne d'Arc, brûlée vive en 1431 et canonisée seulement en 1920, comme l'explique le site internet de la Croix. Bon, tout ceci n'a pas réellement de sens, frères et sœurs, si l'on est chrétien selon la Bible. Tous ces gens sont sincères, il ne faut pas leur en vouloir, mais vous et moi, nous sommes engagés dans une autre direction. La question que je vous pose à vous qui m'écoutez est la suivante. Quel est votre fondement? Sur quoi vos convictions s'appuient-elles? Matthieu chapitre 7, verset 13, je voudrais que nous nous reportions à Matthieu au chapitre 7 et au verset 13. Matthieu, chapitre 7 et le verset 13. Christ s'adresse ici à vous et à moi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, sous-entendu à la vie éternelle, et il y en a peu qui les trouvent. Nous vivons à une époque folle, difficile. Vous savez, quand Paul a écrit ce qu'il a écrit, les choses allaient déjà mal, mais nous vivons quelques 2000 ans plus tard, un peu moins, mais presque. Qu'a dit Paul à Timothée? Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez, quand on pense à ces faussetés, quand on pense à ces célébrations typiquement païennes qui n'ont rien à voir avec la Bible, il s'agit de doctrines de démons, il ne s'agit pas de doctrines divines. Paul a également écrit à Timothée dans 2 Timothée 4, la deuxième épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 4 et le verset 3. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 3. Et que cela décrit notre époque, frères et sœurs. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oh, c'est intéressant à la manière dont il tourne cela, n'est-ce pas? Ils ne supportent pas la bonne doctrine, la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison. Oh, ça, c'est intéressant aussi, la manière dont il tourne cela. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Pas parce que c'est la vérité, mais parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. Détournant l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Intéressant qu'il y a des vieilles coutumes, on devrait être plus futé à notre époque, ayant toutes ces informations sur le passé, et pourtant non, tant de gens retombent dans les mêmes fossés, dans les mêmes ornières spirituelles. Ils reprennent ce qui était fait jadis. Il y a pourtant toutes sortes de preuves aujourd'hui qui montrent que c'était des faussetés, que c'était des abominations dans certains cas, et dans le cas présent, c'était simplement des doctrines de démons, quelque chose qui a... Qu'est-ce qu'il y a dans Halloween qui se rapproche de Dieu, qui vous rapproche de Dieu? Vous et moi, nous savons qu'il n'y a absolument rien. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui vous est agréable? Non. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça, c'est une bonne façon de tourner cette phrase, n'est-ce pas? De tourner cette idée, de l'exprimer, d'avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé, c'est un peu dans un contexte un peu différent, je sais ici, mais le principe s'applique tout à fait. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui te relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Vous avez toujours des gens qui vous disent « Oh, mais les enfants s'amusent, c'est inoffensif. » Ce n'est pas si inoffensif que cela. Quand vous leur fourrez dans la tête des gens, des enfants, des idées stupides, des concepts idiots, complètement malsains, profanes, qu'est-ce qu'il y a de bon et d'inoffensif dans ces choses? Dites-le-moi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, ajoute-t-il au verset 16. Et on pourrait aller plus loin. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4 et le verset 1. 'espère que vous avez tous eu une bonne fête. Nous sommes revenus hier soir de cette belle fête à Montagnac en France et c'était réellement une bonne fête. Et Dieu l'a béni, Dieu nous a réellement bénis. Et j'espère que où que vous êtes allés, vous avez eu une bonne fête aussi. Que ces fêtes sont merveilleuses, merveilleuses. Et nous avons eu l'occasion de nous rapprocher de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ, comme devraient le faire des saints, des vrais saints. Alors 1 Jean chapitre 4, versets 1 et 2. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Vous savez, vous et moi, nous faisons face à un monde spirituel, invisible, à toutes sortes d'idées, à toutes sortes de manifestations physiques, de rituels physiques, qui souvent sont inspirés par les démons. Vous et moi, nous devrions être plus futés, souvent. Je ne dis pas cela de tout le monde, mais il y a toujours parmi nous qui se laissent accrocher par ces choses. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Je vous poserai la question, frères et sœurs. Qu'est-ce qui, dans la Toussaint ou dans le Halloween, se déclare publiquement pour Jésus-Christ? Personne. Personne. On ne parle certainement pas de Christ dans ces fêtes. Ou si on en parle, c'est faussement parce que les saints à nouveau, les vrais saints, sont sous terre. Ou ils sont vivants, ceux à notre époque, ce sont simplement les vrais chrétiens. Alors, la vraie fête des saints, la vraie Toussaint, pourrait-on dire, de quoi s'agit-il? C'est une fête qui n'est pas réellement dans le calendrier divin, mais dans un sens, la fête des tabernacles était un peu notre fête, n'est-ce pas? Mais la fête des vrais saints, pas des faux saints, pas d'individus qui supposément se retrouvent au paradis ou en enfer. Ben, les saints, non, on ne se retrouve pas en enfer, mais au paradis. Il n'y a personne au ciel. Nous l'avons lu, nous le savons, c'est ce que la Bible déclare. Reportons-nous à Marc maintenant, pour terminer, Marc chapitre 7, verset 7. Marc chapitre 7 et le verset 7. Souvenons-nous de ces choses. Nous devons être plus futés. Nous devons étudier les choses, étudier la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps à vous parler de ce qu'on dit à propos de ces fêtes. Parce que c'est ce qu'on enseigne. Ça, c'est de la connaissance que vous pouvez trouver, pour ainsi dire, partout aujourd'hui, dans des articles ou sur Internet. J'ai fait une sorte de synthèse. Je n'ai pas pris un article particulier, j'ai fait une synthèse. Mais il y a beaucoup d'informations. Alors, est-ce ce que vous voulez? Oh, je ne pense pas, mais soyons prudents. Marc chapitre 7, verset 7. Marc chapitre 7 et le verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Halloween et la Toussaint ne sont pas des fêtes chrétiennes, et Dieu ne les approuve pas. Pour reprendre les paroles de Paul, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11, nous avons lu ce passage. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat et je vous dis bon courage, au revoir et à bientôt.